Ils n'ont plus besoin que personne d'autre parce qu'ils veulent vivre dans la pureté de la contemplation. Et la pureté de la contemplation exige la pureté de l'intelligence. Si votre intelligence est polluée, eh bien il restera toujours dans votre contemplation quelque chose. Alors Dieu peut très bien faire les suppléances. Je vous l'ai dit, Saint-Esprit peut souffler, Saint-Esprit peut tailler, il peut faire les suppléances. Mais ordinairement, Dieu demande notre effort. Parce que Dieu ne favorise pas la paresse. Ça, c'est très net. Hein. Dieu ne favorise pas la paresse. Dieu est infiniment miséricordieux, mais il ne favorise pas la paresse. Et parce qu'il ne favorise pas la paresse, il demande notre effort. Notre effort de sortir du positivisme. Vous voyez ? Je crois que ça, c'est général. Sortir du positivisme. Parce que ce positivisme est tellement, tellement lourd. Il s'infiltre partout. Je ne dis pas que toute théologie aujourd'hui est marxisée. Un petit coin. Je vais presque dire 95% de la théologie d'aujourd'hui est positiviste. C'est pas moi qui l'ai dit. 95% de la théologie. Et donc à la place d'aider la contemplation, elle appesantit. Elle empêche d'être contemplative. Une vraie théologie conduit à la contemplation. Et souvent, la théologie n'est plus vraie parce qu'il n'y a pas de métaphysique derrière. Et s'il n'y a plus de métaphysique derrière, il n'y a plus cette limpidité de l'intelligence qui coopère à la foi. Alors, ceci, vous voyez, c'est, je crois, très important à saisir. Il faut me dire quand il faut t'arrêter. Hein. Alors, vous arrêtez. Un quart d'heure de pause. Ça, du monde, parce que je crois que c'est important pour nous, vous voyez, parce qu'on pourrait dire, bon, oui, ça fait partie d'un exercice, on apprend à balayer, et puis on apprend à faire de la métaphysique, avec les mêmes drôles d'idées, faire de la métaphysique, pourquoi aujourd'hui, c'est tout à fait inutile, bon. Ça c'est des drôles de lubies, de qu'on dit, bon. ça ne signifie rien du tout, parce que plus personne n'en fait, hein. Ah, c'est peut-être le plaisir de l'originalité, après tout. Mais moi, c'est peut-être... Personne ne fait, faisons, hein, faisons. Ça, c'était le raisonnement que me disait constamment mon vieil oncle. Quand tout le monde fait quelque chose, attention, il y a des chances que ce ne soit pas vrai. Quand tout le monde le fait, il y a des chances que ce ne soit pas vrai. Tandis que si personne ne le fait, et qu'on l'a fait, et que plus personne ne le fait, il y a des chances qu'il y a là quelque chose d'intéressant à voir. Mais c'est vrai, c'est très vrai, ça. Je crois que on suit, voyez, on descend le fleuve. Descendre le fleuve, c'est faire comme tout le monde. Alors on oublie qu'il y a quelque chose à découvrir. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire une métaphysique qui soit une métaphysique, voyez, qui soit, je sais pas quoi, on pourrait la faire en Sorbonne. On ne fait pas de métaphysique en Sorbonne. Alors c'est très simple. On n'en fait plus. Il s'agit de faire une métaphysique qui soit dans la plus grande limpidité. La limpidité du petit David face à Goliath. Alors, découvrir, c'est redécouvrir la respiration profonde de l'intelligence. L'intelligence est faite pour découvrir ce qui est. Je veux préciser encore un instant sur cette nécessité de la philosophie première, purification radicale de l'intelligence pour permettre à ce don qui vient de Dieu, qui est la foi, qui est la grâce, de pouvoir s'épanouir pleinement. Alors, je vous disais que cette purification de cet effort de la métaphysique que nous faisons, c'est une purification active. L'amour permet une purification passive qui va plus loin, c'est bien évident. Nous ne coopérons, mais c'est la grâce qui fait tout. Et la purification active, passive, celle que réalise l'Esprit Saint, va beaucoup plus loin. Mais souvent, l'Esprit Saint réclame de nous cette bonne volonté que nous exprimons par cette purification active, notre bonne volonté s'exprime par ce désir de se purifier. Et je crois ça dans tous les domaines. C'est ce que réclame l'Esprit Saint, d'être des âmes de bonne volonté. On a compris qu'il faut qu'on mette la main à la pâte. On a compris qu'il faut sortir de cela, il faut sortir de toutes ces choses dont nous avons plus ou moins conscience. Vous savez, quand on commence à en avoir conscience, ça prouve qu'on commence à en sortir. Parce que quand on est complètement dedans, on ne s'en aperçoit même pas. Et les autres s'en aperçoivent. On ne s'aperçoit même pas qu'on a des vieilles ornières. Quand on est tout le temps dans les ornières, on croit qu'il n'y a que des ornières. Et on voit les autres dans la même perspective. Et c'est ceux qui sont... Quand on commence à en sortir, alors on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est à faire. Et la bonne volonté, c'est cette application que nous mettons à en sortir. Et l'Esprit Saint, à ce moment-là, peut lui agir d'une manière beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus forte. Mais ce que l'Esprit Saint n'aime pas, c'est lorsque nous prétendons que ça n'a aucune importance. Ça prouve qu'on est dans les ornières. Ça n'a aucune importance qu'on dit, mais non, le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Le Saint-Esprit veut que nous coopérions. Parce que la grâce ne favorise pas la paresse. Ça, c'est très très net. Il faut comprendre que cette philosophie première est nécessaire pour établir une théologie. Alors, c'est très vrai que la contemplation divine et infuse est au-delà de la théologie et qu'elle n'en a pas besoin. Mais cependant, là encore, le mépris de la théologie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Vous ne devez pas être des théologiens et des théologiennes au niveau de votre contemplation, c'est bien évident. Mais c'est quand même quelque chose que Dieu réclame. Une lecture en profondeur de l'Écriture. Puisque c'est ça la théologie. C'est une lecture en profondeur. Oui, c'est une méditation, si vous voulez. Une méditation intelligente. On peut lire l'Écriture à des niveaux différents. Et il y a un niveau de méditation qui est de mettre notre intelligence au service de notre foi. Mais la méditation qui est bonne peut devenir aussi quelque chose de terrible. C'est comme une mauvaise théologie est pire que tout. Une mauvaise exégèse est pire que tout. Il vaut mieux ne pas en avoir. Mais ne pas en avoir, c'est accepter que notre intelligence reste avec ses erreurs. Et alors à ce moment-là, c'est pas bon non plus. Donc on est coincé. Hein. Vous avez terrible, on est coincé. Si on veut vraiment faire que tout aille dans le sens d'une contemplation et d'une exigence de contemplation, il faut un minimum de théologie. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, il faut un minimum de théologie. Or, la théologie réclame que l'instrument qui est l'intelligence humaine ne fasse pas dévier la parole de Dieu de sa finalité. Parce que la mauvaise théologie, c'est justement orienter la parole de Dieu vers quelque chose qui n'est pas sa finalité. C'est l'orienter vers quelque chose qui soit d'ordre du pur conditionnement humain. Donc l'orienter uniquement vers l'homme dans ses limites et oublier la finalité propre de la parole de Dieu. C'est pour ça que la métaphysique va permettre à notre intelligence de se mettre au service de la parole de Dieu, au service de la foi. Et là, il y a deux petits critères très simples, et je crois importants à se rappeler. C'est que, de fait, pour qu'une philosophie puisse être au service de la foi, il faut une philosophie réaliste, qui atteint le réel, et une philosophie qui a le sens de la finalité. Pour moi, c'est les deux critères. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. C'est les deux critères. Parce que la philosophie, elle est sagesse. Il faut que la sagesse accepte de devenir servante pour devenir utile à la théologie. Là, il y a un très gros problème. Comment la sagesse peut-elle devenir servante? Parce que la sagesse implique l'autonomie, et toute philosophie ne peut pas accepter d'être servante. C'est très curieux. Ça aussi serait très intéressant. Comment une philosophie peut-elle accepter d'être servante? Alors que toute philosophie veut être autonome et veut être sagesse. Toute philosophie. Toute philosophie veut être exhaustive. Comment une philosophie peut-elle accepter d'être servante, c'est-à-dire de disparaître en face de la foi? Parce qu'en réalité, c'est ça, disparaître en face de la foi, pour laisser toute la place à la foi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que la théologie, hein, c'est la philosophie parallèlement à la foi, pour dire que tous les deux vont construire la philosophie, la théologie. Non, c'est accepter d'être servante, donc d'être toute relative à la foi. Et donc perdre son autonomie. Comment une philosophie peut-elle accepter de perdre son autonomie? Là, ce serait ça un très très beau problème. Et quelles sont les philosophies qui peuvent accepter de perdre leur autonomie pour devenir servantes? Alors, en quelques mots, hein, je vais simplement le souligner, puis peut-être que nous aurons le temps hors terme, parce que c'est quand même très intéressant à voir cela. La foi nous donne le jugement d'existence. Donc, il faut qu'une philosophie qui se mette au service de la foi accepte de mettre entre parenthèses son jugement d'existence. Le jugement d'existence qu'elle a pour construire sa métaphysique. Première chose. Deuxièmement, la foi nous donne une finalité nouvelle. Il faut que cette philosophie perde sa finalité propre. Troisièmement, la foi nous donne un ordre nouveau. Il y a un ordre divin qui est différent dans la foi que dans la philosophie. Il faut que la philosophie perde son ordre propre. Il faut que la philosophie perde son indépendance propre qu'elle acquiert par c'est la saisie de ses principes propres, mais qu'elle mette au service de la foi toutes les idées qu'elle a. Ça, la chose tout à fait particulière. Qu'elle mette au service de la foi toutes les notions, tous les concepts qu'elle a découverts. Et ceci pour permettre à la foi de découvrir certaines analogies. Qui se fait à ce niveau-là, à l'intérieur du jugement d'existence de la foi. Alors, à ce niveau-là, je comprends comment la servante peut devenir servante, comment la sagesse peut devenir servante. Elle perd son autonomie pour être toute relative à la foi. Je crois que ça, c'est la grande purification de l'intelligence. D'accepter d'être vraiment tout au service de la foi. Et plus l'intelligence a découvert son autonomie, plus elle peut faire un sacrifice sanglant. Et Dieu aime ça. Parce que celui qui n'a aucun sens de la philosophie, Dieu ne sent pas d'importance. Oui, mais alors, à ce moment-là, vous voyez, il n'offre pas vraiment son intelligence. Et son intelligence n'est pas vraiment au service de la foi. C'est ce que je crains toujours dans les philosophies idéalistes. C'est que les philosophies idéalistes, ne comprenant pas ce qu'il faut offrir en holocauste, l'or, l'encens et la myrrhe, hein, c'est ça, c'est royal comme sacrifice. Alors le sacrifice de la philosophie, c'est royal. C'est donc l'or, l'encens et la myrrhe. Il faut vous demander qu'est-ce que ça représente au point de vue proprement philosophique. L'offrande de l'or, l'encens et la myrrhe. Hein. C'est très important, cela. Bien, si je n'ai pas ce sens-là, que j'offre quelque chose à Dieu pour le dépassement, j'offre quelque chose à Jésus pour être entièrement au service de la foi, pratiquement, je n'offre rien. Alors, en offrant rien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un parallélisme constant entre ce que me dit la foi et ce que me dit la philosophie. Et puis, je fais un cocktail des deux. Et c'est pas la théologie, alors. C'est une espèce de mélange de la philosophie et de la foi. Et à fond, la philosophie à ce moment-là ne veut rien perdre du tout. Elle ne veut pas se dépouiller. Elle ne prend pas le tablier de la servante. Et déposer la robe royale pour prendre le tablier de la servante. Bon, je crois que c'est les deux points qui sont très importants à comprendre. Ils se tiennent du reste les deux, hein. Ce n'est pas deux points tout à fait extérieurs. Le troisième point, ce serait tout simplement pour répondre à ce que l'Église nous dit. Qu'il faut, dans la mesure du possible, que notre intelligence puisse démontrer l'existence de Dieu. On ne peut faire que par le point de vue de la métaphysique. Alors maintenant, si vous voulez, après ces quelques remarques, s'il y a des difficultés, vous les noterez, hein, on reverra demain ces difficultés, parce que j'évoque là-dessus, vous soyez cette fois très net, c'est très important. C'est des choses qui sont très importantes, parce que ça revient tout le temps. Alors si on a des objections, si on sent qu'il y a des résistances, il faut essayer de chercher pourquoi, pour qu'on coopère ensemble, à voir comment, de fait, l'intelligence doit être totalement au service de la foi, doit être assumée par la foi et doit coopérer avec la foi. Entrons maintenant en métaphysique. Hein. Après ce petit préambule, je pars du jugement d'existence. Ceci est que nous pouvons tous comprendre, hein. Je crois que nous pouvons tous saisir ce que représente ce jugement d'existence, ceci est. Hein, quand vous regardez la table, vous dites cette table, elle existe. Et quand vous vous regardez, vous dites je suis. Ça m'est égal, je vais prendre l'un ou l'autre. Ceci est, j'existe. Eh bien, quand vous affirmez ceci, parce que ce jugement, d'habitude, vous ne le faites pas. C'est bien évident. Quand vous commencez à le faire, et que vous êtes dans votre vie concrète, dans votre vie pratique, on dit quelque chose qui ne marche plus. N'est-ce pas ? Vous arrêtez le travail et vous dites, j'existe. On vous dira, mais on vous demande de travailler. On ne vous demande pas à ce moment-là de prendre conscience que vous existez. Tandis que, mais c'est fondamental de prendre conscience qu'on existe. C'est fondamental de prendre conscience que la réalité qui est autour de moi est. Vous voyez que dans ce jugement, je peux affirmer le point de vue de est, ou je peux faire l'inverse. Le double mouvement, c'est normal, hein, puisque de fait, il y a une composition entre le point de vue du nom et le point de vue du verbe, comme dans toute énonciation. Quand j'énonce quelque chose, que j'affirme quelque chose, il y a toujours les deux. Vous comprenez que ce double mouvement, je peux en être parfaitement conscient. Quand je dis ceci est, je peux mettre tout l'accent sur le ceci, ou tout l'accent sur est. Parce qu'il y a une composition, et donc quand il y a une composition, je peux mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre. Et ceci change toute la perspective. C'est très curieux. Vous voyez, quand je mets tout l'accent sur le ceci, je suis devant un jugement d'existence qui s'est corrompu, donc qui n'a plus son originalité. Et c'est tout simplement l'affirmation que nous voyons apparaître, du reste, ça existait, ça, ce que je vous dis là, que nous voyons apparaître à un certain moment dans le développement de la théologie, en disant le jugement d'existence égale il y a d'atout. Ceci est donné. Très important de comprendre ça. Eh bien, ce jugement d'existence, quand vous dites il y a, c'est le est qui est ordonné au ceci. Alors, vous regardez, il y a. Ceci est donné, le datum, que ceci est donné, c'est le ceci. Et c'est le ceci seul qui intéresse. En disant « et », ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est de voir le ceci. Et le ceci est donné. Mais qu'est-ce que ça vous dirait ? Ça n'a pas d'importance. Oui. Au fond, c'est très important de remarquer cela. Parce qu'à partir de ce moment-là, le jugement d'existence comme jugement d'existence disparaît. Et je suis devant une réalité, je suis devant un étant, le ceci, qui qui est la seule chose qui m'intéresse. Je vous étends exprès pour la philosophie heideggerienne. Il y a le datum, ceci est donné, mais c'est uniquement le ceci qui intéresse. Et à ce moment-là, vous comprenez bien, je n'entre pas en métaphysique, je vais simplement analyser qu'est-ce que c'est que les fins. Je vais analyser le ceci. Mais je peux aussi, alors c'est là où je comprends qu'il faut faire attention, je peux aussi considérer que dans le jugement des sens, ceci est, tout l'intérêt est sur est. Et à ce moment-là, il y a le dépassement du ceci. Parce que ce n'est plus le ceci que je regarde, le ceci c'est telle ou telle réalité, mais c'est son existé. C'est son existé qui m'intéresse. C'est le verbe être impliqué au présent qui m'intéresse. Et alors à ce moment-là, je m'aperçois, et c'est ce qui est important à saisir, je m'aperçois que ce jugement d'existence porte sur des réalités très très diverses. Parce que ça peut porter sur tel animal, la vache, sur le chien, sur le chat existe, la vache existe, j'existe. Oui, c'est l'œcuménisme de l'existé. Et l'œcuménisme de l'existé a ceci très très particulier, c'est que toute cette diversité que je vois dans le ceci s'unifie dans l'existé. Et unifie vache, table, tout ce que Perrette dit, hein, tout ce qu'elle peut voir, tout ce qui peut être, tout ce qui peut exister, ça s'unifie dans le existé. Dans le « est ». Alors, je comprends qu'à ce moment-là, il y a en moi quelque chose qui devient très étonnant. Comment se fait-il que la réalité est la plus individuelle dans son existé et la plus commune dans son existé ? L'existé apparaît à ce moment-là, le fait d'être apparaît à ce moment-là comme ce qu'il y a de plus commun. Tout ce que je constate, tout ce que j'expérimente existe. Que j'expérimente au sens fort. Tout ce que j'expérimente existe. Et mon exister, ce que je suis, m'apparaît aussi comme ce qui est le plus original en moi. Ce n'est pas le moi qui est le plus important, c'est l'exister. Parce que si mon moi n'existait pas, vous comprenez, il disparaîtrait tout de suite. Et donc mon moi n'a d'intérêt que parce qu'il existe, exactement comme la vache. Vous voyez, c'est très curieux, à ce moment-là je relativise énormément mon moi. Vous voyez le dépassement de la psychologie par rapport à la métaphysique. Parce que mon moi, oui c'est très bien, mais s'il n'existe pas, il devient comme n'importe quoi d'autre. Tandis que ce qui est important, c'est qu'il existe. Et donc tout se relativise à exister. C'est l'exister qui donne la signification profonde à ceci, sa signification originale. C'est donc bien l'exister qui unifie toute la diversité et qui lui donne sa signification dernière. Ça, je crois que nous pouvons le saisir assez facilement. Mais c'est très important, parce que ça relativise le ceci vers est. Ça relativise même le moi. Relativiser son moi, c'est important. Parce qu'ordinairement, c'est ce qui est le plus difficile à relativiser, objectivement. Tu vois, au fond, il n'y a qu'une seule chose qui nous intéresse, c'est notre moi. Et alors, quand vous dites qu'il n'y a qu'une seule chose qui vous intéresse, c'est votre moi, on ne vous le dites pas, c'est évident. Serait trop gros, mais dans la réalité c'est comme ça que ça se passe. C'est notre moi qui vous encombre le plus, parce qu'il est toujours présent, vous ne pouvez jamais le quitter. Vous pouvez quitter les autres, votre voisine, vous pouvez la quitter momentanément, vous la retrouverez peut-être au tournant, mais vous pouvez la quitter, tandis que votre moi, vous ne pouvez pas le quitter. C'est pour ça qu'il est si encombrant, et vous arrivez à relativiser le moi par le point de vue de l'existence. C'est une première manière d'être objectif par rapport à soi. C'est de voir que le moi qui m'encombre tellement et qui est tellement présent dans toutes les choses, eh bien, il est relatif à l'exister. Parce que mon moi n'a d'intérêt que parce qu'il existe. Alors, vous voyez qu'ici, hein, ça c'est intéressant à voir tout de suite, à remarquer tout de suite, que de fait, si je regarde uniquement l'affirmation ceci est, au point de vue grammatical, c'est évident que le verbe est relatif au nom. Donc, est relatif à ceci. Mais alors à ce moment-là, est comme enfoui dans le ceci, au point de vue forme grammaticale. Or, au point de vue de l'intelligence, je suis capable de faire l'inverse et de dire que le ceci n'a d'intérêt que par rapport à être. Et c'est intéressant à noter parce que ça nous fait comprendre comment, au point de vue du langage, je n'entrerai jamais dans la métaphysique. Toute philosophie analytique refuse la métaphysique. Parce que je veux rester au niveau du langage. Il faut dépasser le langage et comprendre que le langage n'est qu'un signe de la connaissance, de la pensée, pour arriver à poser le problème métaphysique. Je ne dis pas le résoudre, mais le poser. Quand je dis « ceci est » et que ce n'est que c'est « ceci » que je veux dire, et quand c'est « est » qui est l'absolu, et non pas le « ceci ». En faisant cela, vous voyez, je dépasse le point de vue du langage, puisqu'au point de vue du langage, c'est très net. Il y a comme une espèce d'inversion de l'intelligence et du langage. C'est terrible, ça. Mais au fond, c'est comme ça. Il y a une espèce d'inversion. On comprend très bien du reste pourquoi. Parce que le langage reste lié à mon conditionnement. Tout mon langage est lié à mon conditionnement, aux réalités que je connais, à cet univers physique que je connais, à tout le mouvement. Tout le langage est lié à ça. Tandis que la pensée est au-dessus du conditionnement. La pensée veut être reliée directement à la réalité qui existe. Et là, je le saisis tout de suite dans ce point de vue du jugement d'existence, ceci est. Au point de vue du langage, est relatif à ceci. Au point de vue de la pensée profonde, ceci est relatif à elle. Donc, c'est l'inverse. Ça, je crois très important à comprendre cela. Parce que ça nous fait tout de suite comprendre que pas de métaphysique au niveau du langage. Le langage n'est pas métaphysique. Le langage n'est pas au niveau de la philosophie première. La philosophie première n'est au niveau que de la pensée. Alors, si je refuse la distinction entre le langage et la pensée, ce qui existe en philosophie analytique, c'est le refus de distinguer le point de vue du langage et de la pensée. Or, n'oubliez pas que on veut faire une exégèse en se servant de la philosophie analytique. Hein. C'est la grande mode aujourd'hui. Vous voyez ce que ça fait. Si vous ne regardez que le langage sans voir qu'au-delà du langage il y a la pensée, vous ne pouvez plus faire de théologie. Vous ne pouvez plus faire d'exégèse. Et votre foi s'enferme dans la lettre. C'est la lettre qui tue. C'est l'Esprit seul vivifie. Vous voyez, le Saint-Esprit a tout prévu, vous savez, ce qui est intelligent. Alors, il a tout prévu. Il a prévu toutes les erreurs. Et quand Jésus dit que, de fait, c'est la lettre qui tue, il dit, la philosophie analytique tue l'Esprit. C'est la lettre qui tue et l'Esprit vivifie. On fait la distinction entre la lettre et l'Esprit. Alors, faire la distinction entre la lettre et l'esprit, bien, c'est bien ici. Ramener tout à la lettre, c'est ramener le verbe au nom. Comprendre que le nom est relatif au verbe, ça, c'est l'esprit. C'est l'intelligence. C'est très curieux, ces choses-là. Et c'est très intéressant à noter, parce qu'on est en plein dedans, vous voyez. Je crois que la philosophie analytique, c'est le dernier refuge du positivisme. C'est le dernier refus du positivisme. On ne veut plus regarder que la parole est le fruit de la pensée. On ne veut plus regarder que lorsque, normalement, je parle, je veux communiquer ce que je pense. Autrement, je ne parlerai pas. Quand vous avez envie de parler, vous voulez quand même communiquer ce que vous pensez. si vous n'avez pas du tout envie de communiquer ce que vous pensez, gardez le silence. Tandis que quand vous avez des idées géniales, vous voulez les communiquer aux autres. Et alors à ce moment-là, votre langage est vraiment l'expression de votre pensée. Et le langage est l'expression de votre pensée. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous parlez uniquement pour parler, pas la peine, à quoi ça sert? Tandis qu'au contraire, si vous parlez pour communiquer votre pensée, ah très bien. Alors vous voyez bien la différence entre cet absolu qui peut exister au niveau du langage et quelque chose qui montre le dépassement du langage. Lorsque je dis que le ceci est tout entier unifié par est, tous les ceci sont identifiés par est, je montre comment mon langage est au service de ma pensée. Et ceci, vous voyez, vous l'avez tout de suite, dès le jugement d'existence. Très, très curieux, ça. Cette plateforme, tout de suite, immédiatement, je vois les deux orientations. Et ça existait dans l'histoire, et ça continue d'exister. Parce que quand Heidegger résume le jugement d'existence par le esgi, c'est le datum, c'est le étant. Et Heidegger dit textuellement, pas de métaphysique au niveau de l'étant. Ou plus exactement, pas de philosophie de l'être au niveau de l'étant. Je reste enfermé dans les temps. Alors si je reste enfermé dans les temps par le jugement d'existence, il faudra donc découvrir une nouvelle voie d'accès à l'être. Oui. Parce que si, au contraire, le jugement d'existence peut être entièrement tourné vers « et », j'ai donc par là la voie d'accès à la découverte de l'être. Si, au contraire, je ramène « et » à ceci, je m'enferme dans les temps. Et je n'ai plus de voie d'accès à l'être. C'est très curieux. Ça tient à ce point de départ. Vous voyez, le vieil Aristote disait qu'il fallait être très attentif à la source pour voir l'orientation. Parce que la moindre petite gauchissement ou la moindre petite aspect, si vous voulez, d'erreur qui est à la source va avoir d'immenses conséquences. Le jugement d'existence compris comme il y a, supprime la métaphysique. Le jugement d'existence compris comme ceci est, en mettant le ceci relatif à être, ouvre la métaphysique. On peut fermer ou ouvrir. Fermer ou ouvrir. Dans la réflexion sur le jugement d'existence. Je peux ouvrir en montrant que dans le jugement d'existence, ceci est. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le « est ». Alors là, je m'ouvre à la métaphysique. Si au contraire, je montre que « est » n'a d'intérêt que par rapport à ceci, je m'enferme dans les états. Les deux positions ont été soutenues dans l'histoire de la philosophie occidentale. Les deux positions. Et en fond, c'est la seconde position qui est le triomphe du positivisme. Et le positivisme, à ce moment-là, ne peut plus exister. Alors on voit très bien comment Heidegger, fils du positivisme, reste dans cette perspective-là et veut à tout prix sauver l'être, mais en supprimant les étangs. Alors, je vais faire apparaître l'être en supprimant les étangs. Tandis que lorsque nous prenons une position plus classique au point de vue métaphysique, nous voyons très bien que ce n'est pas la peine de supprimer les étangs, puisque l'intelligence humaine est capable de séparer elle de ceci. Et c'est l'intelligence qui le fait. Ce n'est pas une suppression des états, ce n'est pas une suppression du ceci, c'est tout simplement comprendre comment l'intelligence est capable d'isoler la réalité telle que je l'expérimente, d'isoler dans cette réalité sa valeur d'être. Et de comprendre que sa valeur d'être est quelque chose de primordial et fondamental. Bon, continuons. Ça, c'est le premier point. Ceci est. C'est très important de réfléchir là-dessus. Et on va voir progressivement comment l'intelligence naît à partir de là. Bon, je m'aperçois que ce jugement d'existence peut se porter de multiples manières sur des réalités diverses et que tout est toujours unifié par être. C'est « et » qui unifie. Il y a donc là une certaine intuition. Je dis ça, c'est parce que vous savez que Maritain parle toujours de l'intuition de l'être. il y a sûrement quelque chose de juste quand Marie ça parle de l'intuition de l'être. Il y a en même temps quelque chose qui n'est pas exact. Alors il s'agit de dépister là où c'est juste et là où c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une certaine intuition que je peux avoir. Surtout quand je me rapporte à ce que Maritain dit lorsqu'il dit que c'est Raïssa qui a eu l'intuition de l'être. Je ne sais pas si Jacques l'a eu, mais Raïssa l'a eu. Et pour Jacques, Raïssa est son sycomore. Et donc ça suffit. Puisque Raïssa a eu l'intuition de l'être, il le dit. C'est Raïssa qui a eu l'intuition de l'être. Alors, Raïssa a eu l'intuition de l'être en regardant un chat. Il existe. Et à ce moment-là, une grande lumière, il existe. Il est. Elle n'a plus vu du tout le ceci, qui dans le cas est un chat. Ça importe peu que ce soit un chat ou elle. C'est le ceci. Le ceci et le moi disparaît devant l'être. Alors subitement, on est pris par une intuition et on dit, oh, l'intuition de l'être. Qu'est-ce que ça correspond à ça? C'est ça qui m'intéresse, parce qu'à partir de là, il a mis l'intuition de l'être, puis c'est devenu quelque chose de très important dans toute sa philosophie. Et les dents du petit-fils en sont agacées. Les disciples répètent ça sans rien du tout comprendre, et en regardant toujours que le chat existe. Et alors les disciples sont farouches, parce que comme toujours, les disciples sont beaucoup plus farouches que le maître. Le maître, il sait, tandis que les disciples ne savent pas. Alors, il garde. Bien, d'où vient cette intuition? Je crois que cette intuition, c'est tout simplement le point de vue de cette relation qui existe, de l'être qui unifie le divers. Là, il y a une intuition, l'être qui unifie le divers. L'être est capable d'unifier le divers. Ceci est. Bien, l'être est capable d'unifier le divers. Ça, c'est une intuition. C'est que la diversité est unifiée par l'être. C'est pas l'intuition de l'être, vous voyez. C'est l'intuition qui me montre, j'allais dire, ce pouvoir extraordinaire de l'exister. C'est l'exister qui domine, qui dépasse tous les ceci. Vous voyez, si je regarde que le ceci est au niveau de la détermination et au niveau des catégories, je dis que je découvre que l'être est au-delà des catégories. Il est transcatégorial, il est au-delà des catégories. Il y a quelque chose dans le l'être qui peut unifier toutes les catégories. Parce que justement, l'être, dans ce qu'il a de plus profond, est au-delà des catégories. Là, je crois qu'il y a une certaine intuition. C'est pas l'intuition de l'être. C'est l'intuition de l'unité de l'être à travers toute la diversité des catégories. Et quand Maritain parle de l'intuition de l'être, en réalité, il parle de cette intuition, qui est importante, parce que cette intuition va maintenir en moi un état d'admiration. C'est extraordinaire de voir ça. Et c'est vrai, quand Raïssa décrit l'intuition qu'elle a eue, elle est dans un état d'admiration. Ah, c'est extraordinaire. L'œcuménisme de l'être, c'est extraordinaire. Comment l'être unifie toutes les réalités que je vois et que je puis voir. Comment l'être m'unifie avec la vache. C'est quand même assez admirable d'être unifié avec la vache. La vache existe, j'existe. Comment ça se fait? Comment ça se fait que la vache existe et que j'existe? Et puis le petit gosse existe. Et puis le vieillard mourant existe. Comment ça se fait? Comment se fait-il que de fait... Alors là, il y a une admiration pour saisir ce que d'habitude on ne voit pas, d'habitude on ne s'arrête pas à ça. On est devant l'admiration, devant l'être qui est capable d'unifier toute cette diversité. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? À partir de là. À partir de cette admiration née de cette intuition de l'unification qui se fait au-delà de la diversité, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce l'être? Donc, vous avez bien ces trois premiers moments. Hein. J'insiste sur ces trois premiers moments qui sont très importants. Le jugement d'existence. Cette quasi-intuition de la diversité de ces jugements d'existence qui signifie une phase intuitive qui s'achève en admiration. Et puis ce troisième moment, qu'est-ce que c'est ? Qui est l'interrogation. Je crois qu'on peut en effet bien saisir cette démarche initiale qui, encore une fois, peut facilement nous faire dévier. Et là, à partir de là, on ne voit plus. Alors, j'essaie de reprendre là. Jugement d'existence, je colle au réel. Mais je colle au réel d'une manière telle que ce n'est pas tel réel qui m'intéresse. C'est ce réel qui existe. Je suis devant cette chose très curieuse que c'est le réel qui existe. C'est très important parce que, au fond, seul quand j'insiste de cette manière, vous comprenez que c'est ceci est. Donc, quand j'insiste de cette manière que ceci est tout entier relatif à être, je suis en face de quelque chose qui est autre que moi. Je suis en face donc d'une réalité autre que moi qui a un certain absolu métaphysique. Il est autre que moi, dans son être. Parce que en tant que ceci, il peut très bien ne pas être autre que moi. En tant que ceci. Parce qu'il peut y avoir d'autres réalités qui sont communes avec moi. Cet homme, bah oui, on est commun. Et cet homme est. Et c'est du fait même qu'il existe, qu'il est autre que moi. C'est pas en tant qu'homme. C'est pas en tant que ceci qu'il est autre que moi. Parce que là, il peut toujours y avoir des similitudes. Hein. La vache est-elle totalement autre que moi? Non. Elle est vache et je le suis. Et donc, elle n'est pas entièrement autre que moi. Il y a quelque chose de l'animal qui est commun entre les deux. Et je me retrouve de temps en temps dans la vache. Quand je broute l'herbe, je me retrouve semblable à la vache. Je suis capable de brouter l'herbe parce que je suis un animal. Et alors, en tant qu'animal, il y a quelque chose de commun. Quand il s'agit du ceci, il y a quelque chose de commun. Quand il s'agit qu'il existe, ah, c'est totalement autre. Il m'échappe. Il m'échappe dans son existence même. Et ça, c'est extraordinaire. Vous échappez toujours à celui qui est face à vous, grâce à votre existence. Oui, c'est bien la marque de Dieu, ça. Vous êtes relatif à Dieu par votre existence, ça nous le verrons. Vous êtes relatif à Dieu par votre existence, vous n'êtes pas relatif à Dieu immédiatement par l'animalité qui est en vous. Parce que vous êtes obligé de vous nourrir, vous êtes obligé de dormir. Et là, ce n'est pas directement relié à Dieu. Tandis que vous êtes directement relié à Dieu par votre existence. Alors, on comprend comment ce jugement d'existence, qui est si riche, qui a quelque chose de si grand, ce jugement d'existence qui est très simple, va s'achever, ou plus exactement, va s'épanouir dans cette intuition, que Marita appelle l'intuition de l'être, que je dirais une intuition de l'unification de toute la diversité des êtres, de toute la diversité des êtres que j'expérimente, par le point de vue, l'unification de toutes les réalités existantes par le point de vue de l'être. Et une fois que j'ai cette intuition, alors l'interrogation suit, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et la phase d'expérience où je suis collé aux réalités, la phase d'admiration par où je suis capable de regarder ce qui se passe. Et puis, à partir de ce regard, l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous avez donc là trois moments qui sont très importants à saisir. Ces trois moments, parce que c'est toute la métaphysique repose là-dessus. Vous voyez, alors, toutes les petites déviations, ce serait très intéressant à regarder, toutes les petites déviations par rapport au jugement d'existence, par rapport à l'interrogation, par rapport à ce que représente en définitive le point de vue justement de l'interrogation, tout repose dessus. Alors, je vais maintenant réfléchir un instant sur une déviation très, très caractéristique et très intéressante à voir. Je dis ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors la grande question qui se pose, c'est de savoir si la signification, du ceci est, est la même que la signification qu'est-ce que c'est que l'être. C'est là où nous voyons la différence avec la position de Heidegger. Et ceci, c'est capital pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, ça a toujours été capital. Parce que c'est justement là où nous voyons naître l'idéalisme. Alors nous avons toujours en nous un petit idéaliste qui sommeille et qui, quelquefois, non seulement est éveillé, et quelquefois, c'est celui-même qui fait le plus de bruit. Il a étouffé le réaliste qui était dans nous. Alors, c'est intéressant de dépister, vous voyez, c'est là où on dépiste, hein, où on fait la psychanalyse de l'intelligence, la psychanalyse de la recherche de la vérité. C'est à ce moment-là qu'on doit le faire. Alors, ça se pose de cette manière, est-ce que la signification du jugement d'existence ceci est la même que la signification de l'être ? Alors, je vais tout de suite montrer, puis après nous reviendrons pour essayer de comprendre que c'est la même signification. Vous comprenez, si ce n'est pas la même signification, il y a donc une coupure entre le jugement d'existence qui me met face à la réalité,